Au quotidien, avec Hélène Denis.
J'aurais aimé ça être là. Où pensez-vous, Mathieu?
Laissez-moi penser, laissez-moi réfléchir. Oui, je le sais, mais ça coûte trop cher.
Ah, oui. Ils sont chanceux, ceux qui étaient dans la salle, qui étaient au Centre Bell hier pour vivre ce moment en compagnie de l'ex-Beatle. Ben, l'ex-Beatle, il sera toujours un Beatles. Paul McCartney enflamme le Centre Bell. C'est la une du Devoir aujourd'hui. Alors que tombait une fine neige sur Montréal lundi soir, Paul McCartney enflammait le Centre Bell accompagné de quatre formidables musiciens. Une vingtaine de chansons. Moi, j'ai entendu qu'il avait chanté 35 chansons. Mais il y avait une vingtaine de chansons des Beatles qui étaient au programme, à commencer par Help, premier succès du groupe à renaître sur scène dans la métropole, grâce au talentueux musicien de 84 ans. J'ai lu qu'il avait 83 ans, il va falloir vérifier ça. Je sais qu'il est né le 18 juin. Il donnera un second concert mardi soir, c'est ce soir. Alors, vous êtes bien chanceux si vous avez vos billets. Et vous êtes riche aussi, peut-être, mais il y en a qui ont économisé pendant des semaines et des semaines et des mois pour être capable de s'offrir un billet de spectacle pour aller voir cette légende vivante. Oui, Mathieu?
18 juin 1942.
OK, donc ça lui fait 83 parce que... Non?
Oui, 83.
Oui, 83. Bon, petite erreur dans le Devoir, là. Erratum, s'il vous plaît. Et puis, à la une du Journal de Montréal aussi, on voit Paul McCartney. Est-ce qu'il a l'air d'un octogénaire? Pas du tout. Il a toujours cet air juvénile. Paraît-il que le spectacle avait commencé un peu, pas en douceur, mais il a commencé avec la chanson « Help » et on sentait un peu la voix qui chevrotait. Et puis, plus le spectacle avançait, plus la voix se réchauffait et plus on était complètement sous le charme. De toute façon, on est sous le charme avant, pendant, après. La légende Paul McCartney, toujours en forme à 83 ans. Et oui, j'aurais bien aimé ça y aller. J'ai essayé d'avoir des billets, mais je pense que les billets les moins chers, c'était quoi, autour de 300, 400, puis on était comme sur le plafond, pas le toit du Centre Bell ou presque, là. Et, mais on va se faire plaisir avec une chanson pour ouvrir cette émission. Et avant d'ouvrir avec une chanson des Beatles, j'aimerais saluer, il est tout sourire. Êtes-vous un fan des Beatles,
oui,
André
ben
Lacombe?
Oui, absolument. Comme, oui. La très grande majorité des gens,
oui,
je pense.
Est-ce que vous auriez aimé aller assister à ce spectacle-là?
McCartney, seul, pas nécessairement, quoi que j'apprécie, mais...
Il a chanté beaucoup de chansons des Beatles.
Oui.
Il y avait, je pense, qu'il était accompagné par 7 musiciens, selon ce que j'ai lu dans le Journal, oui, de Montréal.
Mais je trouve que le prix des billets, c'est exorbitant, effectivement.
Ah oui, là. Oui. Puis lui, il n'a pas besoin de cet argent-là, mais je pense que c'est les promoteurs qui se graissent un petit peu la patte, si je puis dire. Mathieu, vous, les Beatles, comme votre collègue, notre collègue Jean-Sébastien Laliberté, qui, lui, adore les Beatles.
Oui, non, moins que Jean-Sébastien.
Oui.
Ça va, j'aime ça.
Ouais.
Oui.
Mais si vous aviez été invité, vous n'auriez pas du nom.
Ah non, mais ça, c'est certain.
Ah, bon, alors, là-dessus, je vous salue, chers amis. C'est comme mon début de semaine à moi. Et salutations aussi à Denis Martin Chabot, qui est là depuis quelque temps, à tous les lundis. Et je l'apprécie vraiment. Aujourd'hui, au menu, on parlera avec Olivier Goujon, directeur général du Salon du Livre de Montréal, qui s'ouvre le 19. Ça s'en vient très, très bientôt. C'est demain. C'est comme genre demain, style comme. Est folle ce matin à Brit. C'est à cause de vous,
c'est
ça, Mathieu.
C'est le spectacle de McCartney.
Vous avez fait
c'est
un ça. Café tellement fort. Imaginez si j'avais été au spectacle de McCartney.
Imaginez. C'est comme ça que vous l'aimez, votre café. Très fort.
Je le sais. Corsé, comme dans la chanson de Blue Jeans Bleu. Et puis, André, vous allez nous refaire revivre
oui.
Paris, parce que c'est comme c'est la deuxième partie de votre chronique,
oui,
sur Paris.
C'est Paris bis ce matin. D'autres activités moins connues, moins usuelles, d'autres bonnes adresses.
On sera à l'affût et on va prendre des notes comme toujours. Et il y aura Anne-Marie Aubin qui sera là pour sa chronique livre qui a lu pour nous, pour vous, La mère des larves, drôle de titre, par Maud Jarry. C'est un des titres finalistes au prix littéraire des collégiens qui sera remis en avril 2026. Et puis, on aura aussi la chronique économie en compagnie de Michel Poitvin qui, lui, va parler de chiffres, les nouveaux chiffres d'inflation et le prix des loyers. Tel que promis, voici The Beatles.
Asked a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you
Drive My Car, une chanson de Beatles.
Et Paul McCartney a ouvert le concert d'hier en s'adressant au public en français. Bonsoir, Montréal, c'est ce qu'il a lancé en français en début de concert. Je vous souhaite une belle soirée. Ça fait du bien d'être de retour à Montréal. Nous avons de vieilles chansons, des nouvelles et d'autres entre les deux. C'est ce qu'il a dit, ce cher Paul McCartney qui a fait sensation hier au Centre Bell. Et on vous souhaite une très belle soirée, aussi magique que celle d'hier, ce soir, si vous avez des billets. Alors, on parle de McCartney à la une des journaux d'aujourd'hui, des journaux montréalais, et aussi il y a d'autres choses. Alors, si je regarde Le Devoir, premier test réussi pour la nouvelle ligne du REM ou du REM, lundi matin à l'heure de pointe, les usagers du nouveau tronçon vers Deux-Montagnes ont un droit à un service rapide et efficace. Cinéma, trouver la beauté du lieu, de l'instant. Clint Bentley revient sur Train Dreams, son magnifique long-métrage qui, de l'avis de certains, pourrait causer la surprise aux Oscars. François Lévesque l'a rencontré, ce réalisateur-là, qui s'est inspiré du roman de Dennis Johnson qu'il a lu en 2011. Et ce roman lui est resté en tête jusqu'à ce qu'il décide d'en faire un film, de l'adapter pour le cinéma. Et le titre en français, c'est « Rêve de train ». Le Dufresne reste ouvert, mais devra apporter des correctifs. Depuis janvier 2024, le bureau du commissaire aux plaintes est impliqué auprès de la résidence Lavalloise pour personnes âgées en raison de signalements. C'est Florence Morin-Martel qui signe l'article. Et puis, à la une du Journal de Montréal, Paul McCartney, mais aussi des soins intensifs à l'ultra-marathon. C'est une histoire incroyable. Je vais revenir vers la fin de l'émission. Et jusqu'à 282 000 $ en heures supplémentaires, trois infirmières ont gagné plus de 450 000 $. C'est à lire dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Et puis, à la une de la presse plus, une histoire, en fait, les amputés du froid. Philippe Tessera-Lessard qui nous livre ce texte qui est assez troublant. Tous ne sont pas égaux face au froid qui s'installe ces jours-ci à Montréal. Chaque hiver, des itinérants perdent un pied, des doigts et parfois une jambe à cause du froid mordant dont ils ont de la difficulté à se protéger. En plus d'être traumatisantes, ces amputations compliquent des vies déjà emmêlées dans les difficultés et la vulnérabilité. Guy Saint-Amour s'est d'abord fait amputer des orteils, puis tout le pied et le mollet droit à cause d'une engelure suivie d'une infection. La presse a pu confirmer cette version de façon indépendante. Guy Saint-Amour, rencontré il y a quelques mois, a perdu une partie de sa jambe droite à la suite d'une engelure. L'engelure est survenue alors que M. Saint-Amour résidait au refuge d'urgence de l'Hôtel-Dieu. C'est en 2024. Il s'est retrouvé à l'extérieur, réfugié sous le balcon d'une église lorsque ses orteils ont gelé. Je ne pouvais plus marcher. Après l'avoir mis au chaud, son pied était rendu comme du jello. L'homme est maintenant confiné à un fauteuil roulant qu'il fait avancer avec ses mains ou en trottinant de son pied gauche. C'est écœurant, ce n'est pas une vie à vivre, laisse tomber Guy Saint-Amour, cigarette au bec. Au coin des boulevards Saint-Laurent et de Maisonneuve, il craint constamment de piquer du nez. Si l'une de ses roues coince dans une fissure sur la chaussée ou en descendant un trottoir. Daniel Gérard a été plus chanceux dans sa malchance. En 2022, il a perdu une partie de son index gauche. J'étais dehors à moins 24 degrés. J'ai passé 4 heures à jouer dans la neige et à faire des balles de neige. Je me suis rendu compte dans ma chambre que mon doigt était rendu noir, noir, a-t-il relaté, reconnaissant sans problème qu'il était complètement intoxiqué au moment fatidique. Malgré qu'il ait perdu un bout de sa main dominante, en 2022, Daniel Gérard continue à créer des illustrations. Les premiers temps, j'ai trouvé ça dur, a-t-il relaté à la presse dans sa petite chambre de la mission Aubrey. Les murs sont couverts d'illustrations que M. Gérard continue à faire malgré son amputation à sa main dominante. Le chirurgien plastique Ali Izad Pana use de son bistouri sur des patients aux antipodes de la société, entre les riches clientes de sa clinique privée de Westmount et les itinérants qui constituent une partie de sa pratique au centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. L'hiver dernier, son service a reçu 20 personnes atteintes d'engelures importantes à haut risque d'amputation, dont une bonne moitié sont des itinérants, explique-t-il à la presse. « Ça me choque, dit le docteur Izad Pana, quant au nombre de patients itinérants qui perdent des membres en raison du froid. Avoir presque 2 fois plus d'engelures à cause de 3 semaines très froides, c'est triste. » D'autant plus que ces patients sont beaucoup plus à risque de complications. La personne qui retourne dans la rue très souvent, malheureusement, elle ne revient pas pour les rendez-vous du suivi. Ça finit avec la plaie qui n'est pas guérie, avec une infection, avec le risque d'avoir une autre amputation. Ce sont souvent les ressources de première ligne qui détectent des orteils et des doigts noirs pendant les vagues de froid. Jaël Bégarin, qui dirige la Maison du Père, dit ressentir une profonde déception face à ce phénomène pendant les grands froids de l'hiver. On peut repérer jusqu'à 3 personnes avec un début d'engelure ou carrément une engelure avancée en une journée. Madame Bégarin souligne que plusieurs personnes itinérantes ont un état de santé plus que précaire, qui les met plus à risque. En plus, la consommation de drogue et d'alcool empêche parfois les signaux de douleur et de froid d'atteindre le cerveau. Son organisme a développé une expertise en matière d'hébergement des personnes vulnérables qui doivent recevoir des soins de santé comme les patients qui viennent de subir une amputation. Tout le monde n'accueille pas la nouvelle d'une amputation avec la même sérénité. Le médecin et ses confrères doivent parfois s'adresser aux tribunaux pour avoir l'autorisation d'amputer un patient vulnérable et rébarbatif qui n'est pas en mesure de prendre des décisions pour lui-même. Une engelure grave non traitée présente des risques d'infection qui peuvent s'avérer mortels. Une histoire, donc, un fait réel et malheureusement qui se passe autour de nous. Les amputés du froid, on en parle dans la presse d'aujourd'hui.
Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel, quelle belle nouvelle. Fini ce bordel, hésitation à terme. C'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin des querelles, des pluies torrentielles. Elle, elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système. Que je le vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne rappelle. Regarde mes lèvres. Pour elle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes, n'était
Charlotte Cardin et sa chanson « Tant pis pour elle ».
Et on retourne à Paris avec vous, André Lacombe. André, allez-y avec quelques activités.
Grâce à des amis qui étaient allés à Paris l'année dernière, on a appris que c'était possible de faire une visite guidée du Palais Garnier. Ça, c'est l'endroit qui abrite l'Opéra national de Paris depuis 1875. Mais à noter que depuis 1989, en passant, il y a une deuxième salle qui a été créée sur la place de la Bastille. Et depuis ce temps-là, on parle soit de l'Opéra Garnier ou de l'Opéra Bastille, pour les distinguer. Donc, nous, on était à l'Opéra Garnier. Visite d'une durée d'une heure et demie, il y a quatre types de visites offertes, quand même du choix. Puis on a opté, nous, pour la plus intrigante, les mystères du Palais Garnier. Ça se passe après la fermeture, alors qu'il fait noir. On a adoré ça.
Ah oui? Avez-vous eu peur?
Non, mais il y a toutes sortes de choses intrigantes. La légende du fantôme de l'opéra, elle est née au Palais Garnier.
Ah, je ne savais pas.
Oui, oui. Suite à une série d'événements puis de coïncidences pour le moins troublants, vraiment troublants. Il y a même une loge qui lui était réservée au fantôme. Parce que je pense qu'il y a, il y a un personnage qui s'est amusé à endosser, qui a profité du mythe et qui jouait le fantôme, en fait. Ça, c'est un peu bizarre.
Une loge fantomatique, mais qui existe pour vrai.
Qui existe pour vrai. Il y a même une plaque à l'entrée de la loge. Il y a d'autres récits, semble-t-il, authentiques, qui soulèvent plusieurs interrogations. Donc, en plus de visiter formellement les lieux, incluant la magnifique grande salle, c'est à couper le souffle, vous aurez droit à un exposé des plus captivants. Alors, ça vaut les 26 € demandés, je vous le dis tout de suite.
Alors, vous avez aimé ce type de visite. Vous
vraiment.
Dites qu'il y en avait quatre?
Oui, il y a une visite plus conventionnelle, il y a une visite pour les enfants avec un contenu plus ludique.
Oui, oui, pour
puis
la famille.
La quatrième, je ne m'en rappelle plus, là, mais vraiment, c'est très bien. Et les guides sont très compétents. De l'opéra, on va à la Galerie Dior.
Oh, chez Christian?
Chez Christian, musée entièrement dévolu à l'œuvre de Christian Dior, grand couturier, et de ses successeurs. Yves Saint-Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raph Simons et Maria Grazia Chiuri. Et je parle de successeur ici parce que Dior est décédé relativement jeune. Hein, je vous en parle sous peu. Donc, il y a plein de gens qui ont pris sa relève. Yves Saint-Laurent, c'était son bras droit, entre autres. C'est comme ça qu'il a commencé. L'endroit vise à perpétuer la mémoire de la maison Dior en dévoilant des modèles, des croquis, documents d'archives, accessoires, des pièces d'exception, pour la plupart exposés pour la première fois. Alors, ça vaut vraiment, vraiment le détour. Moi, je ne suis pas un passionné de la mode, là, mais je dois avouer que j'y allais un peu reculons. J'ai été conquis, entre autres, par le parcours singulier de Christian Dior. C'est un homme qui a exercé toutes sortes de métiers, dont galériste, illustrateur, d'autres métiers même qui n'avaient aucun rapport avec le domaine des arts, et qui va connaître le succès un peu sur le tard, en 1947, à 42 ans. Et succès remarquable qui va durer seulement 10 ans, parce qu'il va être emporté par une crise cardiaque en 57 à 52 ans.
Ah oui.
Il était très jeune quand
Triste.
Il est décédé. Oui, tout à fait. Mais, comme je vous dis, il y a des gens de grand talent qui ont pris la balle au bon. Puis une des choses qui m'a fasciné, c'est que Dior, c'était vraiment un artisan de la mode. Hein? C'était pas une diva, c'était un homme qui était plutôt discret, mais c'était un passionné. Et évidemment, on en a fait une star, parce que c'était un homme avec un talent hors norme.
On a fait des films sur Yves Saint-Laurent, mais sur Christian Dior, je ne sais pas.
C'était un homme très effacé, Christian Dior. Saint-Laurent était plus flamboyant, effectivement. Alors, voilà, Galerie Dior,
ça vaut,
le détour. Et si vous êtes ne serait-ce qu'un peu intéressé par l'architecture, moi, je vous recommande fortement de faire un détour par le musée de la Fondation Louis Vuitton, situé au Bois de Boulogne. C'est un musée d'art contemporain, propriété du grand groupe français LVMH, hein, empire du produit de luxe, qui détient entre autres la marque Louis Vuitton. Au-delà des expositions, le bâtiment lui-même vaut le détour. Hein. C'est l'œuvre d'un des plus grands architectes, à mon sens, qui est Frank Gehry, le Torontois Frank Gehry.
Un Canadien.
Le bâtiment, il fait penser à un grand voilier parce que l'enveloppe extérieure, il est constitué de plaques de verre en forme de voile, donc tout en courbe. C'est spectaculaire. Et il y a une promenade ponctuée de cascades d'eau qui fait partiellement tour de la bâtisse, tout en étant abrité par cette fameuse enveloppe-là. Je vous donne juste un bref aperçu ici. Là, il y aurait tellement à dire sur cet édifice. Donc, je vous recommande de faire le tour guidé qui donne les détails de la construction. Et c'est inclus avec l'admission générale. Donc, là aussi, ça vaut le détour.
Au Bois de Boulogne.
Au Bois de Boulogne.
Vous poursuivez avec deux suggestions de restaurants et un hôtel.
Alors, je vous parlais la dernière fois d'un appart-hôtel dans le 17e arrondissement. En voici un autre. C'est là qu'on a résidé dans la première portion de notre séjour. À cheval entre le Marais et le quartier de la Place de la Bastille, on retrouve le Citadine Bastille-Marais. Citadine, il y en a qui connaissent déjà. C'est une chaîne d'appart-hôtels très connue en Europe qui est présente dans plusieurs villes en France et un peu partout en Europe. Les espaces sont plus petits qu'à l'Impérial Rennequin, dont je vous parlais la dernière fois.
Qui était aussi un appart-hôtel.
Mais tout est là pour faire vos petits déjeuners, vos lunchs. À part le café, c'est étrange, il n'y a pas de cafetière dans les apparts.
Ouais.
Non, il faut descendre dans le hall de l'hôtel. Le café est offert. Au moins ça. Vous n'avez pas payé le café.
Ouais.
Vous avez
Est-ce qu'il
bon
est bon?
Café. Oui, très bon. Très, très,
Est-ce qu'il est aussi bon que celui condamne. Que Mathieu nous fait le matin?
Ah, écoutez, Mathieu, c'est parce qu'il met de l'amour dans son café. Donc.
Oui, mais il en met beaucoup de café aussi. Quand on l'aime corsé,
on
est heureux.
Oui, tout à fait. Ça réveille. Quoi.
Ah ouais, on ne veut pas d'autre vaisselle.
Alors, j'ai bien aimé cet endroit, mais l'établissement aurait besoin d'une petite cure de rajeunissement.
Ah oui?
Pour le dire. Oui, il serait temps. Mais tout était propre et fonctionnel lors de notre passage. C'est pas donné, comme presque partout à Paris, quand on est dans des endroits au cœur de l'action. Là, on est à deux pas de la place des Vosges.
Bien situé.
Très bien situé. Début octobre, on a déboursé 233 euros par nuit.
Bon, à peu près comme ce que vous avez déboursé à l'Impérial Rennequin?
Oui, un tout petit peu plus, je crois, qu'à l'Impérial Rennequin, oui. Et parlant du quartier de la place de la Bastille, qui est moins connu, moins touristique que le Marais, c'est agréable ce quartier-là. C'est plein de bons petits restos, entre autres comme le Petit Breguet, où on a passé une très belle soirée. Petit resto de quartier sans prétention, quelques tables, des serveurs fort sympathiques. Alors, au Petit Breguet, ils servent une cuisine savoureuse typique de l'Aveyron. L'Aveyron, c'est une région rurale située à peu près entre Toulouse et Montpellier, dans le sud de la France. Et le bœuf est à l'honneur à cet endroit-là, mais à des prix vraiment raisonnables. Là. 25 euros pour un onglet à l'échalote avec une généreuse portion de
frites.
Délicieuses frites maison.
Les meilleures, les
bien
frites maison.
Bien croustillantes et moelleuses à l'intérieur. Autre avantage, une vaste sélection de vins en format 500 ml. Des fois, une bouteille, c'est trop. Et là aussi, à des prix très raisonnables, ça commence à 16 euros pour un 500 ml de rouge quand même. C'est très raisonnable. C'est beaucoup moins cher qu'ici.
Ça a de l'allure.
Ça a bien du bon sens.
Mais Breguet, ça veut dire quoi?
Je ne sais pas.
Non.
C'est une bonne question. Et entre 8 et 11 euros pour les entrées et les desserts. Donc, bonne adresse, bonne table, pas trop cher, très bien.
Alors, on retient ça, le Petit Breguet. Puis oui. Mathieu essaie de trouver la définition.
Je sais que Breguet est une marque de montre suisse, mais je vais continuer mes recherches.
Oui. OK, merci beaucoup.
Autre quartier bouillonnant de Paris. Celui de la Place de la République, qui était à 15-20 minutes de marche de notre hôtel. C'est là que débutent souvent les grandes manifs. Là. En septembre dernier, entre autres après la chute du gouvernement de François Bayrou, c'est là que ça avait commencé. C'est toujours très animé, manif ou pas, sur cette place. Il faut avoir des yeux tout le tour de la tête. Là. Il y a des vélos, des planches à roulettes, des trottinettes, alouettes qui arrivent de tous les côtés. Faut être vigilant. Et juste en face, vous avez une des adresses de l'heure, le Bouillon République.
Ah, les bouillons, qui reviennent à la mode.
Ouais, c'est un des établissements phares de la Renaissance des bouillons à Paris. La presse a consacré un dossier là-dessus le 6 septembre dernier.
On en a des bouillons aussi à Montréal.
Le bouillon
ailleurs,
Albert,
au Québec
que
je n'ai
pas essayé encore.
Oui, moi je l'ai essayé.
J'espère que vous avez aimé.
Oui, j'ai apprécié.
Voilà. Alors, un bouillon, pour ceux qui sont moins familiers, c'est tout simplement un resto qui offre une cuisine française classique à bas prix. Et c'est inspiré des restaurants du 19e siècle qui offraient de la nourriture abordable aux ouvriers, dont le bouillon de poulet ou le bouillon de bœuf. Et c'est ça qui a donné le nom à la formule.
Alors, tout simplement, ça tombe sous le sens.
Ça tombe sous le sens. Des exemples, quand je vous dis que c'est très abordable, en entrée, l'incontournable œuf mayonnaise, 2,50 €. Le bouillon de poulet avec vermicelle, hein, bien sûr, 2,90 €. En plat principal, le bœuf bourguignon, 12,20 €. La crème caramel au dessert, 2,50 €.
Non, alors c'est un vrai bouillon.
Qui dit mieux? Ouais. C'est un vrai. Et le secret de prix aussi bas, ben, c'est que les restaurateurs font de l'argent sur le volume. Et là, je me fie toujours au bouillon République. Je n'ai pas visité d'autres bouillons à Paris. C'est un endroit très vaste, réparti sur 2 étages. Les tables sont serrées les unes contre les autres. C'est pas propice aux confidences ou aux premières dates, comme on dit.
Oui, ou quand on y va seul, mais on est désennuyé par les conversations autour de nous.
On est désennuyé, absolument. Ambiance donc très animée, voire bruyante, hein, faut se le dire. Est-ce que c'est bon? Basé sur mon expérience, je dirais inégal.
Oui, c'est ça, je trouve, une des caractéristiques du bouillon.
Tout à fait inégal. Ouais. Ma copine avait pris un saumon à l'oseille, très réussi, très bon. Moi, j'ai pris un filet de lieu, qui est un poisson blanc. C'était plus ordinaire.
Un filet de lieu?
Oui, de lieu noir.
L-I-E-U.
Comme un lieu.
Ah oui?
Oui.
Je mange du lieu ce soir.
Je mange du lieu. Ça ressemble à l'aide de la faim un peu en termes de texture.
OK.
Oui. Poisson blanc, semi-ferme.
Raffiné quand même.
Oui. Mais la façon dont il l'avait apprêté...
Non, vous n'avez pas été convaincu. Oh,
je n'étais pas convaincu.
Bon, avez-vous pigé dans l'assiette de votre blonde?
Non. J'étais enrhumé, je voulais pas...
Ah non, OK.
Alors, mais ça vaut la peine d'essayer. Hein? Avec ces prix-là, vous n'avez pas grand-chose à perdre.
Le bouillon République.
Bouillon République.
Ben, merci pour cet autre tour de France. On était à Paris,
absolument,
encore une fois. Puis, on vous retrouve à Montréal, ça c'est sûr,
dans
le studio de Canal M.
Oui.
Dans 2 semaines. On sera quoi? On va dire au mois de
décembre?
Oh non!
Ben oui!
Ça va trop vite.
Très vite.
Merci beaucoup, André.
Bonne journée.
Alors, André, c'est parce que c'est sur la rue Breguet que se situe le petit Breguet. C'est ce que vient de me dire Mathieu.
Ah.
D'où le nom du resto. On parle économie au retour.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Nuit magique, une histoire dure.
Nuit magique, une chanson de Ariane Moffatt.
Chronique économie en compagnie de Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Alors, on commence avec le budget fédéral. Là. Hier, le budget qui a été déposé le 4 novembre dernier a été approuvé par la Chambre des communes.
Il a failli être éprouvé, oui. Mais effectivement, il a été approuvé. Un vote très serré, 170 à 168. On sait que le gouvernement libéral est minoritaire. Il y a eu des tractations de dernière minute, notamment avec le Parti vert. Et puis, Elisabeth May, la chef du Parti vert, s'est ralliée là, en faveur du budget. Puis, on a eu deux abstentions du côté des conservateurs et du NPD. Là, deux abstentions chacun des partis. Donc, ces gens-là n'ont pas voté. Alors, ça a aidé à avoir un vote favorable pour les libéraux et le budget.
Bon,
donc,
alors,
une bonne nouvelle, sinon on serait retourné en élection.
Oui, 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 on serait retourné pour le temps des fêtes, là.
Ça.
Bon, alors là-dessus, on passe à un autre appel pour l'instant. En tout cas, hier, Statistique Canada a publié les plus récents chiffres d'inflation pour le mois d'octobre.
Mais oui, à chaque mois, on parle un peu d'inflation, puis ce qui se passe. Alors, en septembre, sur une base annuelle, l'inflation est à 2,4. Bonne nouvelle, en octobre, elle a baissé à 2,2. On a noté une légère baisse des prix à la pompe, puis également des prix à l'épicerie. Là. Sur un mois, ils ont baissé de 0,6. C'est la plus forte baisse mensuelle depuis le milieu de la COVID en septembre 2020. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que 0,6, ça peut sembler pas beaucoup, mais sur un mois, ça équivaut fois 12, c'est 7,2. Si c'était comme ça pendant 12 mois, là, ce sera peut-être pas nécessairement le cas, mais juste pour donner une idée de l'ampleur de la baisse, là, c'est significatif.
Oui, allez-y.
Ou juste peut-être une chose, si on exclut l'énergie puis les denrées alimentaires, là, qui sont deux composantes plus volatiles, l'inflation est à 2,7. Donc, c'est pas encore peut-être aussi bas que la banque le voudrait.
Et Michel, qu'est-ce que ça veut dire pour les taux d'intérêt?
Et justement, le rôle de la Banque du Canada, c'est de maintenir l'inflation autour de 2. Puis la banque, c'est pas si facile, cette mission. Elle doit anticiper qu'est-ce qui va arriver au niveau des prix, à l'inflation dans le futur. Si elle s'attend à ce que l'économie stagne, l'inflation va être réduite, les prix vont avoir tendance à baisser. Par contre, si elle s'attend à ce que l'économie s'envole, les prix vont augmenter, il va y avoir de l'inflation, puis là, elle voudra augmenter le taux d'intérêt. Donc, l'inflation, c'est un peu le signal de la santé de l'économie. Mais quand on regarde aujourd'hui, c'est difficile de prévoir. L'inflation générale a baissé un peu, mais on exclut l'énergie des aliments, elle a monté. Il y a toujours de l'incertitude avec la guerre tarifaire, notamment avec nos chers voisins du Sud. Ce qui affecte un peu à la baisse l'inflation, il y a eu l'abolition de la taxe carbone fédérale, ça fait moins d'un an. Donc, c'est encore, quand on regarde les chiffres annuels d'inflation, elle a encore un impact. Donc, si on enlevait ça, peut-être que l'inflation serait un peu plus élevée. Puis, en même temps, on a eu un budget fédéral, on en parlait tout à l'heure, qui est relativement expansionniste. Donc, le gouvernement fédéral va dépenser beaucoup, notamment en défense et en infrastructure. Ça augmente la demande pour des travailleurs, des biens et services. Ça peut avoir un impact positif sur l'inflation. Donc, la Banque du Canada, c'est un peu ça. Elle doit savoir on s'en va où. Là. Ce qui arrive, il y a la guerre tarifaire, ça a un effet dépressif sur l'économie. Le budget fédéral, un effet positif. Donc, est-ce qu'on augmente ou on baisse les taux d'intérêt? Les deux derniers mois, les taux d'intérêt ont baissé d'un quart de pourcent chaque fois. On est passé de 2,75 à 2,25. La prochaine décision, c'est le 10 décembre. Il n'y aura pas de nouveau chiffre d'inflation d'ici là. Donc, la Banque du Canada va se baser un peu sur ces données. Et ces données, elle aussi, elle a un gros département de recherche qui collecte leurs propres données aussi. Mais on s'attend à ce que les taux soient maintenus là, en cette fin d'année, en décembre. Mais le prix, le fait que le prix de l'énergie et des aliments ont baissé en octobre, bien, c'est une bonne nouvelle pour tous les consommateurs que nous sommes.
Mais en même temps, Michel, je suis en train de lire, en vous écoutant bien sûr, dans le Journal de Montréal, oui. À la page 25, on parle des hausses au-dessus de l'inflation entre octobre 2024 et octobre 2025. Et on parle d'augmentation pour le café plus 26 % le bœuf plus 20 % Alors, c'est quand même des augmentations considérables.
Oui, il y a certains items qui ont monté, mais le général, quand on prend une moyenne de toutes les denrées alimentaires, bien, ça a baissé un petit peu, mais effectivement, il y a des items, là, si on va dans le détail, il y a des items qui augmentent, qui ont augmenté, mais je pense notamment le prix des légumes a baissé.
Alors, à part les carottes, plus 11 %
Pardon?
À part les carottes, on indique plus 11 % Mais on n'ira pas dans le détail, mais vous dites qu'en moyenne, il y a une baisse.
Une baisse, c'est ça. Donc, c'était le prix à l'épicerie. Donc, ça inclut non seulement, je pense, les fruits, légumes, la viande, mais aussi les produits transformés. Là. Donc, par exemple, une lasagne, toute prête, etc. Ça a baissé de 0,6% sur un mois.
Une lasagne clé en main.
C'est ça. Mais en même temps, il faut profiter de ça. Je pense que c'est bon quand il y a des prix qui baissent, même s'il y en a d'autres qui augmentent, parce que les gens peuvent ajuster leur panier d'épicerie. Si le prix du bœuf a augmenté, dire on va manger peut-être moins de carottes, moins de bœuf ce mois-ci, puis plus de brocolis ou de chou-fleur ou des denrées qui ont baissé, puis voir un peu moins de café.
Alors, oui, faut être attentif. Hein? Faut être responsable de nos gestes et de nos actions. Alors, maintenant, si on parlait du côté des loyers, il y a une autre nouvelle annoncée? Une bonne nouvelle?
Ouais, une bonne nouvelle, c'est un peu... c'est de l'information un peu, je dirais, en anglais, bon, peut-être pas, je ne devrais pas dire ça, mais soft, là, un peu informel. Mais on a l'impression que le marché locatif, notamment à Montréal, devient de plus en plus un marché de locataires. Il y a des gens qui ont épluché les petites annonces là, de loyer. Et de plus en plus, les propriétaires offrent des mois gratuits ou l'Internet ou le chauffage, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années. Puis ça fait dire bien, probablement que la hausse des loyers va être limitée, puis peut-être même les loyers pourraient baisser un peu. Le taux de vacances est en hausse. Si on regarde toutes les villes de plus de 10 000 habitants, le taux de vacances en 2023 est à 1,3 % puis a monté à 1,8 % 1,8, ça semble pas élevé, mais qu'on ait augmenté de 0,5 % sur 1,3, c'est plus du tiers de réduction des vacances. Là. Puis, mais c'est surtout pour des loyers un peu plus chers. Là. Donc, pour les loyers en haut de 1675 $, le taux de vacance est supérieur à 5 % puis les loyers en bas de 1150, bien, le taux de vacance est en bas de 1 %
Bon, qu'est-ce qui explique ces changements dans le marché?
Ah, c'est pas si évident. On a eu quand même pas mal de constructions. Là. Il y a un article, je pense, c'est sur le site de Radio-Canada qui donnait les chiffres des mises en chantier au Canada pour les appartements appartenant à des immeubles locatifs de 5 logements et plus. Entre 2021 et 2023, il y avait à peu près 70 à 72 000 nouveaux appartements construits au Canada par année. En 2024, 84 000. C'est une hausse qui est importante. Alors ça commence à longue, l'offre augmente. Et puis, bon, il y a des gens qui parlent d'immigration qui commence à diminuer, mais ces chiffres-là, ils datent un peu d'avant vraiment les grosses baisses d'immigration. Je suis toujours un peu... Probablement que ça a un impact, l'immigration, mais ça explique pas tout. D'après moi, un des facteurs, pendant la COVID, si vous vous souvenez, tout le monde est resté à la maison pour travailler. Puis ça, il y a eu une demande accrue d'espace. Là. Les gens ont pris des logements plus grands. Il y en a qui sont achetés des chalets. Ils disaient, ben là, on peut travailler à la maison. Donc, il y a eu une demande accrue pour le logement. Mais là, on retourne de plus en plus en milieu de travail. Cet effet-là, ça se tombe. Ça se peut qu'il y ait des gens qui se tournent, soit vendre le chalet ou se tournent vers des logements un peu plus petits. Ils disent, on n'a pas besoin de cette chambre supplémentaire ou un bureau.
Ouais.
Puis, ou ça. Alors, Il y a un paquet de facteurs. Démêler ça, c'est pas si évident. Moi, peut-être ce que j'aime pas, c'est un peu avec le discours qu'on a au Québec, là, l'immigration, je trouve qu'elle a le dos large. Mm-hmm. On hésite à dire que c'est de la faute des immigrants pour un paquet d'affaires. Ici, peut-être un peu, mais je pense moins que ce que certains affirment.
Bon, alors là-dessus, on vous dit un grand merci d'avoir été avec nous pour cette chronique toujours intéressante d'un mardi à l'autre et on se retrouve la semaine prochaine.
Oui. À la semaine prochaine. Au revoir.
On a joint Olivier Goujon, directeur général, qui, j'imagine, se lance un petit peu partout, puisque le Salon du livre de Montréal s'ouvre dès demain, et ce jusqu'au 23 novembre au Palais des congrès de Montréal, 48e édition cette année. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, Hélène. Bonjour à tout le monde.
Merci d'être avec nous. Alors, Olivier, le thème de cette année, c'est le réenchantement. Pourquoi ce thème?
Ah, on a besoin d'espoir, on a besoin d'être enchanté, d'être réenchanté. On est dans un monde où, en ce moment, il y a une vraie transformation qui s'opère. Il y a des reculs sociaux, il y a des conflits géopolitiques, il y a des inquiétudes climatiques. On a l'impression qu'il y a beaucoup de négativité dans l'air. Alors, oui, il faut aborder ces sujets qui sont difficiles, mais aussi, il faut se laisser la capacité de ralentir et de voir qu'on est capable, en tant qu'humanité, à des jours meilleurs. Et on pense vraiment que les livres peuvent permettre cette ouverture, cette capacité de réenchantement, et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème.
Et les principales nouveautés, parce qu'il y en a toujours d'une année à l'autre, les principales nouveautés que vous avez mises en place pour cette édition, est-ce que vous pouvez nous les présenter, nous en présenter quelques-unes, Olivier?
Oui, absolument. Donc, c'est sûr que d'une année à l'autre, on essaie d'arriver avec un salon qui se ressemble, hein, parce que les gens veulent retrouver leur salon du livre. Mm-hmm. Mais on essaie aussi toujours de répondre un peu mieux à nos valeurs et à nos objectifs. Vous savez, le Salon du livre de Montréal, c'est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir le livre et la lecture. Et le moyen d'y arriver, c'est d'organiser comme ça une grande fête du livre où des exposants, des éditeurs tiennent des kiosques, des stands et évidemment vendent des livres. Mais le livre n'est pas un produit culturel comme un autre, hein. C'est quelque chose qui représente la culture en grand. C'est la voix des auteurs et des autrices. Donc, c'est notre rôle d'organiser cet événement-là. Alors, comment répondre mieux à nos valeurs, ben, on a des valeurs d'inclusion et d'accessibilité. Alors cette année, parmi les nouveautés, on a décidé de faire le mercredi gratuit. Donc demain, journée d'ouverture, journée inaugurale, c'est gratuit pour tout le monde.
Bonne initiative. En plus, oui, on pourra y aller en métro, en autobus.
Oui. Là-dessus, on n'a pas de contrôle et on est tellement soulagés qu'on puisse accueillir tout le monde en transport en commun. Fait que ça, c'est une grande nouveauté. Et on a aussi étendu la gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans là, toute la durée du salon. C'est-à-dire que n'importe qui a moins de 18 ans entre également gratuitement. Fait que ça fait partie des deux grandes nouveautés cette année en termes d'accès au salon, notamment.
Alors, vous voulez attirer les jeunes parce qu'on entend souvent dans le discours ambiant que les jeunes sont plus portés vers leurs écrans que vers la littérature. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oui, il faut embrasser notre époque. Je ne pense pas que la façon de faire face aux enjeux qu'on vit est encore une fois, hein, je le dis, d'être trop négatif. Je pense qu'il faut juste prendre acte que les écrans font partie de nos vies. Mm-hmm. Les adultes aussi, hein, c'est pas seulement les jeunes qui ont cette tendance à être scotchés sur leur écran.
Non, et souvent, les jeunes vont imiter ce qu'ils voient autour d'eux.
Ouais, je pense c'est facile pour nous, les adultes, d'aller dire « Ah, les jeunes », mais on devrait se regarder le nombril et dire peut-être que nous aussi, on est scotchés sur nos écrans. Mais mon message, c'est plutôt dire « OK, les écrans sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire contrepoids un peu aux écrans? Ou est-ce qu'on peut utiliser les écrans pour valoriser le livre et la lecture? » J'ai envie de dire, remettons le livre au cœur de la cité. Remettons le livre et la lecture au cœur de nos vies. Et c'est pour ça que le salon a un rôle clé à jouer, parce que c'est un moment où on parle de livres, où on parle de littérature, où on parle des auteurs et des autrices. Et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on en parle plus. Il faut que le livre soit dans nos vies, au quotidien. Il faut qu'on le voit dans les films. Il faut qu'on le voit dans les séries télé. Il faut qu'on en parle à la radio, sur les réseaux sociaux. Alors, je crois que pour attirer les jeunes à la lecture, il faut simplement collectivement revaloriser le livre et la lecture, parce que c'est à la fois un outil de connaissance, mais aussi de divertissement. Ça demande un peu plus de travail, mais je pense que collectivement, on est capable d'y arriver. Puis au Salon du livre, on ajoute notre petite pierre à l'édifice.
Et quand vous parlez de valoriser, de revaloriser le livre, est-ce que vous parlez du livre physique ou du livre en général, le livre en format numérique, le livre audio?
Okay. Exactement, Hélène. Exactement. Le livre audio, le livre audio, c'est une chance incroyable. Se faire raconter une histoire. Qui n'aime pas se faire raconter une histoire?
J'en connais pas.
Ben voilà. Et donc, on peut se laisser bercer par la voix d'un comédien, d'une comédienne. Parfois, c'est l'auteur ou l'autrice même qui narre son propre livre. Donc, on a aujourd'hui plein d'outils. Il y a Radio-Canada qui a des outils, des livres audio gratuits. Il y a évidemment Vues et Voix qui a des livres, qui a une mission noble.
Oui, il y a même une émission sur les livres audio pour mettre de l'avant les livres audio.
Il y a Nara, qui est une entreprise québécoise, où est-ce qu'on peut trouver des livres. Il y a Audible, même si c'est américain, qui joue son rôle. Donc, où le livre audio fait partie de la solution, je crois. Et puis après, il y a d'autres façons aussi d'aborder le récit. Aujourd'hui, il y a les livres augmentés. Il y a toutes sortes de façons. La technologie peut être, plutôt plutôt qu'être mise en opposition, peut être un outil pour valoriser le livre et la lecture.
Prenons-le comme un outil. Et il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices. Est-ce que vous êtes fière en particulier d'un visiteur ou d'une visiteuse écrivain-écrivaine? cette année?
Il faut que j'y aille. Oui, enfin, c'est sûr que là, c'est plus Olivier Goujon qui parle parce que en tant que directeur de salon, je suis évidemment très fier qu'il y ait autant d'auteurs et d'autrices qui viennent. On est, vous savez, c'est plus de 2000 auteurs et autrices qui sont au salon. On a la chance d'être une métropole et donc d'attirer comme ça tant d'auteurs, mais j'ai évidemment je suis très 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 heureux qu'on ait Yasmina Kadra cette année quand même.
Ah oui.
Grand auteur algérien qui vient nous visiter, donc c'est rare, hein, que le Salon du Livre valorise la littérature québécoise, mais c'est aussi l'occasion d'attirer d'avoir de la visite de l'étranger. Donc par rapport à cette année, ça serait mon coup de cœur, je dirais Yasmina Kadra, qui est c'est une chance incroyable de l'avoir à Montréal.
Et qu'est-ce qui est extraordinaire aussi au Salon du Livre, c'est qu'on a la chance de rencontrer les auteurs, de rencontrer les autrices, d'avoir des dédicaces, mais aussi de les entendre à l'intérieur d'entrevues, d'échanges. Il y a toutes sortes de formules. Ça, c'est palpitant là, pour quelqu'un qui s'intéresse à la littérature, mais aussi aux écrivains et aux écrivaines.
Absolument. Vous savez, c'est ce qui fait la différence. Souvent, on me dit « Ah, mais le Salon du Livre, c'est comme une grande librairie. » Je dis « Oh, ben, pas vraiment. » En fait, nous, on valorise énormément les libraires et toutes les librairies. Elles sont là toute l'année et ce sont des lieux magiques et vos libraires sont là pour vous inspirer. Une journée au salon, 365 jours en librairie. Mais au salon, qu'est-ce qu'on trouve de différent? Mais c'est qu'il y a effectivement cette rencontre avec tellement de gens et, comme vous le dites, il y a 300 activités. Wow. Donc, c'est incroyable. On peut choisir entre des grands entretiens, des tables rondes, des tête-à-tête, des séances de dédicaces. Il y a des cabarets. Il y a même des spectacles. On a Stéphanie Boulay et la Grande Sophie, par exemple, qui vont faire un spectacle littéraire et en musique samedi. On a le Grand Cabaret acadien parce que l'Acadie est à l'honneur cette année. Donc, effectivement, il y a une diversité d'activités. Et là, j'ai pas parlé des activités pour les jeunes avec des combats de dessin, avec des rencontres ludiques entre des auteurs. Donc, effectivement, c'est foisonnant. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, de 0 à 100 ans. C'est la force de notre événement, c'est qu'il est véritablement intergénérationnel.
Et sous la couverture avec, ça me semble intéressant, particulièrement intéressant, propose une autre porte d'entrée dans l'univers des auteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, ça c'est une initiative de BANQ. Donc, vous savez, là, au Salon du Livre de Montréal, moi j'aime bien dire qu'on est là pour magnifier des démarches et des idées existantes. On n'est pas juste là pour inventer des choses, on est là pour mettre en lumière le talent de d'autres, hein, les auteurs aux premières loges, mais aussi on a plusieurs partenaires qui viennent bonifier l'expérience. Alors, on s'est associé cette année avec BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et leur équipe a mis en place cette activité, là, une série d'activités sous la couverture avec. Et donc, c'est une influenceuse ou un influenceur des médias sociaux qui va interviewer un auteur ou une autrice et qui va essayer d'aller justement sous la couverture. Donc, on joue sur le rôle donc d'une couverture de livre, mais une couverture de livre aussi.
Oui,
donc,
au sens propre comme au sens figuré.
C'est ça. Oui. Exactement. Voilà. C'est ça.
Et vous êtes aussi de plus en plus inclusif. Vous proposez des activités interprétées en LSQ, donc en langue des signes québécoise.
Oui.
Est-ce que
oui,
c'est une première?
Encore une fois, je parlais tout à l'heure de valeur, d'inclusion, mm-hmm. d'accessibilité. Je dis souvent, le livre est pour tout le monde. Et ben, il faut que ce soit vrai. Alors, il y a des personnes malentendantes qui ont des... qui doivent avoir aussi, qui peuvent plutôt vivre la fête du livre.
Oui.
Et donc, on s'est associé avec quelques personnes et quelques organismes là, pour au moins offrir des activités à tous les jours en langue des signes québécoise.
Et là, Olivier, il reste quelques secondes. Votre coup de cœur à vous, votre coup de cœur littéraire, là, le livre qui vous a le plus plu en 2025?
Ah, quelle grande question. Je sais, c'est pas un livre de c'est le livre que je viens de lire. Je sais même, c'est ordure, mais j'ai vraiment aimé ce livre.
Ah,
c'est
oui.
Un essai.
C'était voilà. Pas une ordure.
C'était... Non, c'était pas une ordure, effectivement. Voilà.
Un livre qui vaut la peine et l'auteur est assez coloré. Merci, vraiment passionnant. Oui. Ben merci oui. Pour cette entrevue, Olivier Goujon. Je sais que votre temps est très, très précieux. Je vous souhaite une 48e édition remplie de monde et de succès. Et vive les livres. Alors, le salon commence demain, mercredi, merci. Jusqu'à dimanche inclusivement, et c'est gratuit pour les 18 ans et moins. Merci, Olivier.
Merci, Hélène. À bientôt.
Au plaisir de vous croiser au salon.
Tout à fait. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Save Your Tears, une chanson de The Weeknd.
Et là-dessus, on continue à parler littérature, puisque c'est la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin. Anne-Marie, bonjour.
Bonjour, Hélène.
Alors, vous continuez là, de nous parler de livres qui s'inscrivent dans des prix littéraires. Cette fois, c'est le prix littéraire des collégiens. Il y a 5 titres finalistes et vous avez lu La mère des larves de Maud Jarry, qui fait partie des 5 finalistes. Le prix a été annoncé le 13 novembre dernier, ça fait pas longtemps. Puis,
non, la semaine dernière, oui.
le lauréat sera annoncé en avril 2026.
Oui, effectivement, il fait partie des titres avec Même pas morte, dont j'ai parlé il y a à peu près 2 semaines. Mm-hmm. Les Sentiers de neige, dont j'ai parlé il y a plusieurs mois, que j'avais adoré, de Kev Lambert. Et puis aussi Ne flanche pas, de Naomi Fontaine, qui n'est pas vraiment un roman, donc je pense pas qu'il va être retenu. Et je n'ai pas encore eu Combustion libre, mais je vais sans doute revenir sur ce titre-là.
Certainement, on l'espère.
La mer des larves, là. C'est vraiment un très bon roman. Une page couverture qui parle, qui est très drôle, qui est bien illustrée par Benoît Tardif, qui fait des illustrations comme avec des compositions d'éléments de ce qui se passe dans le roman.
On dirait un conte de fées, on dirait une image de conte de fées.
Oui, puis on a un cahier à colorier, on dirait aussi.
Oui.
Parce qu'il y a tout le contour noir. Et bon, ben, déjà, ça, c'est très attirant. Le titre aussi est très attirant. Et en plus de...
Mais moi, il ne m'attire pas le titre, La mer des larves.
Oui, ça peut faire penser à plein de choses, hein, oui. Effectivement. Mais c'est exactement ce que ça veut dire. Alors, le deuxième concours dans lequel ce titre-là était finaliste, c'est le prix Jeannette Bertrand, mais il a été pas retenu parce qu'ils ont diminué de 8 titres à 5 titres, je crois. Puis ensuite aussi, c'est un concours qui a été initié par des professeurs de cégep qui ont choisi des pages couverture. Puis, ils ont fait voter des étudiants sur la page couverture, le titre et les 500 premiers mots. Il fait partie des 5 romans dans cette catégorie. Bref, il est certain d'être un titre lauréat d'un prix. Je mettrai ma main au feu. Alors, qui est Maud Jarry? Elle est une fille qui a étudié en littérature, mais aussi en thanatologie. Donc, ça, c'est très important parce que dans l'histoire, il y a au moins 2 chapitres qui se passent dans un salon mortuaire avec des cadavres. Donc, ça, on voit son expérience là-dedans. Elle avait publié, il y a un certain temps, en 2019, toujours aux éditions Ta Mère, « Si j'étais un motel, j'afficherais jamais complet ».
C'est un quel beau titre. Poésie,
et qui témoigne de sa relation, ses relations amoureuses et tout ça, toujours avec une note d'humour. Et puis, dans ce roman-là, qui est un roman qu'on dirait tragicomédie d'horreur, selon l'éditeur, effectivement, c'est une tragédie. Il y a des moments où on sourit et il y a des choses qui sont un peu dégueu, qui vont plaire beaucoup aux jeunes. Je pense aux cégepiens qui vont lire ce livre-là. Il est question d'amour, de famille, de religion, mais aussi de tout le monde médical, la maternité, la fertilité, la gynécologie, les grossesses, et le monde, comment je dirais, masculin, qui gère finalement notre corps, à nous les femmes, d'une manière un peu froide parfois, pour pas dire pire, là. Alors elle s'est documentée. Il faut savoir que ce livre-là, à chaque chapitre, quand elle annonce quelque chose, qu'elle affirme quelque chose, on peut aller voir à la fin la source qui lui permet de dire ça. Donc, c'est à la fois un roman, mais toute la recherche qui a été faite, elle justifie les propos pour pas qu'on pense parfois que c'est exagéré.
Ouais.
Ou enfin,
c'est bien documenté.
Voilà, ça c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'héroïne qui ressemble sans doute un petit peu à l'autrice, qui s'appelle Sarah Dubuc, qui a 33 ans. Elle raconte au jeu son quotidien sur quelques mois. Elle vient de rompre avec Gabriel. Ça fait 2 mois qu'il est parti parce que lui voulait des enfants et elle n'en voulait pas. Ils ont été 8 ans ensemble et elle se remet difficilement de cette rupture qui est arrivée comme ça un peu rapidement. Puis en même temps, ben, elle est technicienne pour son amie qui a une clinique vétérinaire, son amie Jennifer. Et puis ben, elle a un problème. Depuis quelque temps, les animaux, surtout les chats, sont agressifs envers elle, alors qu'elle adore les animaux puis ont toujours été très gentils avec elle. Donc, aussi, elle a des douleurs dans le ventre. Puis tout le monde lui dit « ça doit être tes menstruations, ça doit être parce que là, tu viens de rompre ». Personne ne la prend au sérieux. À un moment donné, elle va voir le docteur Bourgie. Tu sais, ça fait penser au salle mortuaire.
Oui.
Et puis, il lui dit « ça, une bonne bouillotte d'eau chaude, ça va aller mieux », puis il prescrit des antidépresseurs puis des antidouleurs. Donc, on montre combien parfois c'est difficile de se faire prendre au sérieux dans ce monde, puis avoir un médecin. Alors, donc, l'histoire débute autour de la fête des mères. C'est un peu le thème là des premiers chapitres. Elle a une grand-maman qui s'appelle Noëlla, qui est veuve et qui est atteinte de démence, qui est dans une résidence. Et puis là, ben, la famille va là. La famille, c'est très limité. Elle a une sœur qui s'appelle Marianne, son mari Sébastien, et elle a des jumelles. Et il y a sa mère qui est séparée depuis très longtemps. Son mari l'a quittée. Sarah avait 3 ans. et l'autre était un bébé. Donc, elle a éduqué seule ses enfants, puis elle a souffert beaucoup, cette femme, ça se voit. Et elle organise quelque chose, elle apporte un buffet, chacun apporte quelque chose, puis ils mangent avec la grand-mère qui est perdue complètement. Et puis sa mère, elle a la mauvaise idée d'inviter son ex, Gabriel, à venir à ce dîner-là. Malaise.
Bon. De quoi je me mêle?
Ouais. Et la mère est convaincue que sa fille va lui donner un petit-fils parce qu'elle veut un garçon. Elle a deux petites filles, puis là, ça serait le bonheur. Puis elle y fait beaucoup de pression. Et puis elle dit, tu sais pourquoi je t'ai appelée Sarah? Elle dit, dans la Genèse, et je la cite, « Sarah avait 90 ans quand elle est devenue la mère d'Isaac. » Ben là, Sarah lui répond, « Ah, est-ce que comme dans la Genèse, tu aimerais que je trouve mon demi-frère pour m'accoupler avec lui? » Car c'était ça, le lien de Sarah et Abraham, demi-frère, demi-sœur. Bon, alors elle veut pas, puis sa mère va vraiment insister. Elle veut l'amener dans un séjour nature en Estrie. Mais c'est pas ça du tout qui va se passer. Et ça, je le dis pas parce que c'est trop hilarant ce qui se passe là. Puis ça tient du film d'horreur aussi. C'est excellent, vraiment excellent. Alors, sans consulter, Sarah Maryse fait toujours des choses comme ça qu'elle organise et puis elle est convaincue qu'elle va finir par être enceinte. Là. Puis, ben, dans ce fameux repas de la fête des mères, à un moment donné, ben, Gabriel, il s'en va, puis elle le rejoint dehors, puis lui annonce que lui, il a tout de suite rencontré une autre fille et elle est enceinte et puis ils vont vivre ensemble. Alors, ça, c'est comme une gifle pour elle. Ça fait juste 2 mois qu'ils sont partis. Il s'est trouvé tout de suite une fille, est enceinte, puis ça y est, il a refait sa vie. Puis elle sent qu'il y a encore quelque chose entre eux, puis on le sent, effectivement.
Oui, parce qu'il ne l'a pas laissé parce qu'il ne l'aimait plus.
Voilà, c'est ça. Puis elle aussi, elle l'aime encore. Alors voilà qu'en rentrant de tout ça, elle va prendre un coup. Elle est très triste, et puis elle doit aller porter le compost au chemin, le bac, et puis là, elle tombe par terre, elle s'évanouit parce qu'il y a des vers là-dedans. Puis, elle trouve ça dégoûtant. Un passant la trouve, elle se trouve à l'urgence, et là, ben, par hasard, en même temps, sa grand-mère a fait un AVC, puis elle est aussi à l'urgence. Bref, là, commence un passage, je dirais, presque féerique, là, où sa grand-mère va retrouver un petit peu ses sens et va la reconnaître alors qu'elle est perdue complètement. C'est très intéressant, mais surtout, ça sert à montrer combien elle souffre dans le monde médical. Elle va dire « mourir m'indiffère, souffrir me terrorise ». Et elle a une description méticuleuse de l'examen gynécologique que nous, les femmes, on a tous subi avec, pas vraiment de plaisir. Et elle raconte que, bon, ben, ce qu'elle a, c'est qu'elle a un problème, il y a un kyste dans son utérus. Et là, bon, ben, il va s'en suivre ensuite des visites chez le médecin, chirurgie, tout ça. Le monde médical en prend pour son rhume parce que vraiment, elle raconte des faits qui sont assez éprouvants. Entre autres, qu'un médecin prétend que les personnes noires sont beaucoup moins sensibles, donc n'ont pas besoin des anesthésiés. Et ça, il y a la source de où est-ce qu'elle prend ça à la fin du livre. Et puis, donc, je dirais que son roman, il est à la fois scientifique et littéraire parce qu'il y a beaucoup dans l'écriture, il y a beaucoup de passages oraux, d'autres qui sont très poétiques. Quand elle dit, par exemple, « je m'égratigne dans la nostalgie ». Alors, on voit qu'elle a écrit de la poésie avant. Puis, il y a des points d'humour, parce que c'est sûr que c'est très dramatique, cette histoire-là. C'est très sombre. Et puis, pour finalement que ça passe mieux, ben elle a beaucoup d'humour sarcastique et puis d'ironie à l'occasion. Par exemple, au salon mortuaire, bon, ben, les petites filles qui sont avec elle, ses petites nièces, ils demandent pourquoi grand-maman a des lunettes si elle s'en va sous terre et qu'on va l'enterrer. Et puis, elle dit, ben oui, c'est vrai, c'est peut-être pour qu'on la reconnaisse. C'est bon, une question d'enfant sur laquelle tu ne sais pas trop quoi dire. Puis aussi, au début du livre, elle parle du fait que c'est difficile pour elle de se remettre de cette rupture et de trouver l'âme sœur. Elle dit, quand tu as 20 ans, ça se fait vite, mais à 30 ans, c'est autre chose. Je la cite, elle dit, le vrai problème, c'est le célibat. D'été, dans la trentaine, c'est comme aller faire l'épicerie un samedi soir. Les tablettes sont vides, puis tu peux être certaine que les bons deals vont tout être partis. J'ai trouvé la comparaison très drôle. Effectivement, c'est plus difficile, plus tu vieillis. Le choix est moins grand, puis les bons candidats sont plus là. Et elle souffre beaucoup de ça. Et puis, à un moment donné aussi, elle compare les jumelles qui, après la cérémonie des funérailles, courent partout dans la salle de réception où il y a les sandwichs pas de croûte, là. Et elle dit, Leur chagrin est loin déjà, et pourtant, il va revenir aussi vite qu'il est parti. Je jalouse leur cœur d'enfant, sa capacité d'absorption qui ferait l'envie de n'importe quelle compagnie de tampons. Alors, on voit pas venir cette comparaison-là, non. Effectivement. Puis elle dit aussi que tout s'est passé très vite, que entre le moment du dîner, de la fête des mères, puis tout ce qui s'est passé, c'est comme si ma vie était passée au weed eater. Donc, il y a des images qui font sourire de temps en temps. Ça permet d'alléger le
souffler un peu.
Oui, parce que c'est un roman qui dénonce vraiment la violence faite au corps des femmes. Puis ensuite, la pression d'avoir des enfants. On n'est pas tout obligé d'en faire, puis on devrait être libre de ça. Et puis aussi, il y a un grand passage sur la religion et la spiritualité, le fanatisme, les sectes. Ça, c'est intéressant aussi parce que sa mère dans l'histoire, la mère de Sarah, elle est là-dedans. Elle est complètement, je dirais, assimilée par des... C'est ça, une espèce de secte. Et ça rend la vie très difficile à toute la famille.
Ça doit.
Oui. Fait que, bref, un très bon roman, un premier roman, je précise, parce qu'elle fait partie aussi, autre chose que j'ai oublié de dire, fait partie du club des premiers romans là, qui sont partout dans le Québec et en France. Là. Et puis, presque 400 pages, ça se tient, on s'ennuie pas. Il y a parfois des descriptions, je dirais, médicales qui peuvent peut-être...
Être rébarbative? Ou...
Peut-être, mais moi, j'ai trouvé qu'au contraire, on apprend beaucoup de choses.
Ouais.
Et on se reconnaît là-dedans, toutes les femmes, évidemment. J'ai hâte de voir comment les cégepiens vont réagir à ça, parce que, bon, c'est essentiellement des filles hein, qui font partie de ces clubs de lecture, fait que probablement qu'ils vont se reconnaître, même s'ils ne sont pas à l'âge de la grossesse, c'est quand même quelque chose qui les touche. Et puis, ben le côté horreur... Salon mortuaire, cadavre, ça
plaît aux jeunes.
Absolument.
Ouais. La mère des larves, c'est publié aux éditions Ta mère et c'est écrit par Maud Jarry, son premier roman et certainement pas son dernier.
J'espère.
On le souhaite, on lui souhaite aussi. Merci Anne-Marie de l'avoir lu.
À la semaine prochaine, au revoir.
À la semaine prochaine.
Je croyais plutôt sage, un mescal de plus c'est tout. J'ai vu de sombres images, j'ai senti l'ombre. Dude.
Félix Diotte, Coyoacan.
Alors, à la une du Journal de Montréal, des soins intensifs à point de suspension, l'ultra-marathon, histoire incroyable de la paralysie à l'Ironman. C'est Mathieu Robert Sauvé qui raconte cette histoire. En fait, c'est un témoignage. Paralysé, intubé et gavé, une jeune Québécoise qui reposait aux soins intensifs il y a tout juste 2 ans, prendra part à un ultra-marathon au Mexique dans moins d'une semaine. Mon objectif est de le compléter en 12 heures, confie d'une voix joyeuse Annick Nadeau-Fréchette, qui est une entrepreneure en design intérieur de 20 ans, qui revient pourtant de très loin. En 2023, cette boule d'énergie qui avait couru déjà 2 marathons à seulement 16 ans a commencé à ressentir des engourdissements et une fatigue extrême. Un médecin lui a d'abord diagnostiqué une mononucléose et lui a conseillé de se reposer. Mais les douleurs étaient de plus en plus intenses. À un moment donné, je ne pouvais plus bouger, sauf une paupière d'un œil, relate-t-elle. Quelques heures plus tard, elle était hospitalisée d'urgence au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Les médecins ont dû la plonger dans un coma artificiel pour pouvoir l'intuber. L'air ne passait plus dans sa trachée. C'est comme si elle respirait dans une paille. Atteinte du syndrome de Guillain-Barré, elle a été admise aux soins intensifs du CHUS. Cette maladie grave touche de 1 à 2 personnes sur 100 000, soit de 90 à 180 cas annuels au Québec. C'est pas Guillain, c'est Guillain-Barré. Cette maladie est causée par un dysfonctionnement du système immunitaire qui s'attaque au système neurologique. J'étais intubée pour respirer et gavée pour m'alimenter. Mais je n'ai jamais perdu espoir. J'ai dit à mon père que je ferais un jour un Ironman. Cette épreuve consiste à faire 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied. Depuis qu'elle a vu un documentaire sur le sujet à l'âge de 14 ans, elle rêve d'en compléter un. Le départ sera donné le 23 novembre à Cozumel, au Mexique. Entre son séjour à l'hôpital qui a duré plusieurs semaines et la ligne de départ, il y a eu l'intervention de multiples experts et d'une chaîne de soins qui transite par la récolte de plasma sanguin d'Emma Québec. On traite depuis les années 1980 cette maladie auto-immune grâce à l'injection d'un médicament à la base de plasma qui nécessite la contribution de centaines, voire de milliers de donneurs à travers le monde. Pour Annick Nadeau-Fréchette, ce médicament s'est avéré miraculeux, car la forme grave à laquelle elle a été confrontée a nécessité un traitement rapide au plasma sanguin. J'ai vu mes symptômes disparaître un à un, sauf pour une séquelle, ma trachée est fonctionnelle à 75 %. Ça ne m'empêche pas de bien respirer quand je fais du sport, heureusement, dit-elle. Le rythme de la jeune femme est époustouflant. En plus de ses 50 heures de travail par semaine dans son entreprise, et comme employée d'armoire de cuisine Saint-Élie, elle combine 15 heures d'entraînement morcelé en course à pied, natation, cyclisme et musculation en gymnase. Ce qui la motive? Le plaisir, répond-elle sans hésiter. Les gens comprennent mal cela, mais je vous jure que c'est par plaisir que je fais tout ce sport. C'est le fun autant pour le corps que pour l'esprit. Elle se montre remplie de gratitude pour tous les professionnels qui se sont relayés à son chevet au cours de son hospitalisation et durant sa convalescence. Pour les remercier, elle a d'ailleurs organisé en juillet dernier une course de 10 km qui lui a permis d'amasser 10 000 $ au bénéfice de la Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, où elle a été traitée. Un événement qu'elle entend répéter chaque année. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances le 23 novembre pour cet exploit qui est assez inimaginable. Et je parlais donc de cette personne qui est aussi assez inimaginable. Elle est très courageuse et elle dit qu'elle fait tout cela pour le plaisir. Alors, on lui souhaite beaucoup de plaisir. Annick Nadeau-Fréchette. On parlait de Paul McCartney en entrée d'émission, lui qui a triomphé hier lors de son premier de deux concerts au Centre Bell de Montréal. Et on parle aussi de lui puisque, pour autre chose, la légende britannique de la musique, Paul McCartney, va sortir un morceau silencieux en décembre à l'occasion de la réédition d'un album également muet auquel ont participé des artistes comme Hans Zimmer ou Kate Bush pour dénoncer un projet sur l'IA, l'intelligence artificielle, assouplissant le droit d'auteur. Le titre de McCartney, intitulé « Bonus Track », le premier depuis 5 ans, est un enregistrement d'un studio vide avec une succession de bruits de bandes magnétiques et de cliquetis d'une durée de 2 minutes et 45 secondes. Il sortira à l'occasion de la réédition en vinyle de l'album « Is This What We Want » le 8 décembre. 8 décembre, ce n'est pas une date innocente, puisque c'est la date où a été assassiné son partenaire John Lennon. Après une journée sans anicroche pour l'antenne de montagne du réseau express métropolitain, le REM, lundi, un camion a heurté un viaduc à la hauteur de la station Bois-Franc, perturbant le service pendant 2 heures en début de journée. Aujourd'hui, les responsables du REM ont annoncé l'incident sur les réseaux sociaux aux alentours de 7 heures, en précisant qu'une navette avait été mise en place entre les stations Bois-Franc et Côte-de-Liesse. Le viaduc accidenté surplombe le boulevard Marcel-Lorrain et était emprunté jadis par le train de banlieue. Alors, on dit que l'organisation a annoncé la reprise globale du service sur la portion entre les stations Bois-Franc et Côte-de-Liesse à 8h56, soit près de 2 heures plus tard. Mais là, tout est bien. Qui finit bien, je l'espère. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Merci Mathieu Tessier qui est à la mise en onde. On se retrouve demain, je l'espère bien. Bonne journée.